Prends le Chumash à la page 297, Parasha Kedoshim. On prend le Pasuk Tetzayin. Pasuk Tetzayin, c'est 5e ligne. On va lire un Pasuk avec un Rashi. On va essayer de commenter autour. J'ai pas pu faire la photocopie, donc on va faire autour du Chumash. Le Pasuk qui nous dit Lo teler rachil beramecha. Tu n'as pas le droit de colporter dans ton peuple. C'est-à-dire, on n'aime pas les colporteurs. Un colporteur, c'est pas exactement comme du Lashon Hara. Ça ressemble beaucoup à Lashon Hara, mais le colporteur de l'époque, en tout cas, c'était le commerçant. À l'époque, on avait des commerçants qui tournaient un petit peu dans les maisons, qui tapaient aux portes, qui proposaient leurs marchandises. Et ces gens-là, par définition, pour mieux vendre leurs marchandises, ils avaient beaucoup de potins à raconter. Et mieux on racontait des potins, et mieux on se faisait ami avec les gens pour vendre la marchandise. Donc on nous dit que c'est interdit, selon la Torah. Lo teler rachil b'amecha, on n'a pas le droit de colporter. Mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter sur la fin du verset. Il dit Lo ta'amod al dam re'echa. Donc je vais traduire littéralement. Lo ta'amod al dam re'echa, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de rester debout al dam re'echa, à côté du sang de ton voisin. Ani Hashem, je suis Hashem. D'accord ? Alors on va s'arrêter sur la fin du verset. Ça veut dire quoi, donc, ne pas rester debout à côté du sang de son voisin ? Donc apparemment, bon, le sens simple, on comprend, ça veut dire « Re'echa » c'est « Re'a ». « Re'a » Re'a en hébreu, c'est un ami. Non, c'est un ami. « Re'echa » c'est un ami. D'accord ? Donc de quoi on parle ici ? Quand on dit de ne pas, on est en train de nous demander ici de ne pas rester debout, ne pas rester impassible à côté du sang de son voisin. Donc, a priori, dans le sens simple, de quoi on parle ? On te dit que si tu vois quelqu'un en train de mourir, voilà, non-assistance à personne en danger, c'est interdit, d'accord ? Et c'est très grave. Très bien. On va voir ce qu'il dit Rashi, et vous allez voir que c'est pas simple. Dans Rashi, on prend la 6e ligne de la colonne de gauche. Ou la 7e ligne, 7e ligne directement. Voilà. Vous avez en gras, Ta'amod al-Dam Re'echa. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ? Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, c'est quoi donc le Ta'amod al-Dam Re'echa ? Quelle est l'interdiction ici ? On n'a pas le droit de... Donc on a dit de rester impassible, de rester debout, à côté du sang de son voisin. Rashi nous dit, Lirot bemitato, tu n'as pas le droit de le voir en train de mourir. Veata yachol leatilo, alors que tu peux le sauver. Donc tu le vois en train de mourir, donc apparemment il y a un danger, et toi tu peux le sauver. Alors écoutez bien l'exemple que Rashi va donner, c'est un exemple qui est un peu bizarre. Il dit qu'il gonne, comme par exemple, Tovea banar, si une personne est en train de se noyer dans le fleuve, Vechaya olistim baim alav. Et il y a une bête sauvage ou un brigand, d'accord, baim alav, qui sont en même temps en train de venir pour l'attaquer. Donc imaginez-vous la situation un peu bizarre. Il y a une personne qui est en train de se noyer, et en parallèle, il a un animal qui vient, qui est là en train de... D'accord, il veut le bouffer. Ou bien, t'as un voleur qui est là, il va en train de se noyer, et il va être là en train de dire d'abord tu donnes ton argent, après on te laisse noyer. C'est ce que Rashi dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit après ? Ani Hashem, je suis Hashem. Pourquoi il dit je suis Hashem ? Je suis Hashem. D'accord ? Chaque fois qu'on dit Ani Hashem, ça veut dire que Neeman le Shalem Sachar, Veneeman le Ipara. Que de la même manière que Dieu, on peut lui faire confiance pour nous rembourser, pour nous payer, pour donner un salaire, de la même manière, Dieu te dit attention, si tu n'écoutes pas, c'est moi qui vais m'occuper de ton cas. Donc le fait de laisser quelqu'un non-assistance à personne en danger dans la Torah, c'est très grave. Il y a quelques mitzvot dans la Torah dans lesquelles Dieu y conclut le verset en disant « Ani Hashem, je suis Dieu ». C'est très rare d'en avoir de mémoire, d'en avoir 5 ou 6. Très rare. Et une des mitzvot dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous dit « Attention, je suis Hashem », c'est-à-dire c'est un rappel, « Attention si tu ne fais pas ce que je te demande », c'est la mitzvah d'assister une personne qui est en danger. Alors, pourquoi j'ai fait ce rachim ? Puisque dans ce Rashi-là, on a plusieurs problèmes. Tout d'abord, on a un principe qu'il faut savoir, qu'on a répété plusieurs fois dans les cours de Rashi, qu'on fait le vendredi soir, que lorsque Rashi vient, Rashi intervient uniquement lorsque le verset n'est pas clair. C'est-à-dire si le verset est clair et compréhensible, Rashi ne vient pas pour l'expliquer. Si Rashi ici va intervenir, il va nous donner un exemple, il va dire, ça veut dire quoi, « L'otamod al-dam re'echa » Ça veut dire quoi, tu n'as pas le droit de rester impassible devant le sang de ton ami? Ça veut dire que tu le vois en train de se noyer et tu peux le tuer, et tu peux le sauver, pardon. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Par exemple, il est en train de se noyer et il y a un brigand qui vient. Donc on a plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui n'était pas clair dans le verset? Pourquoi Rashi a besoin d'intervenir? Vous allez voir qu'on va trouver des enseignements de tout ça. Qu'est-ce qui n'était pas clair? Deuxièmement, je veux dire, quand Rashi amène un exemple, c'est que l'exemple va nous aider à quelque chose. Mais là, a priori, l'exemple, non seulement qu'il ne nous a pas aidé, mais il nous a compliqué les choses. Pourquoi Rashi a besoin de chercher un exemple bizarre comme ça? Une personne est en train de se noyer, et en même temps, il y a un brigand qui vient et qui veut l'attaquer. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'arriver là. Une personne est en train de se noyer, il faut le sauver, c'est tout.
Jusqu'à quand on peut sauver une personne?
Attends, justement.
On peut mettre sa vie en danger.
Donc là, déjà, donc on va développer autour de ce Rashi. Donc on comprend apparemment qu'il y a quelque chose qui dérangeait Rashi ici. Il y a quelque chose qui le dérangeait. Il avait un certain problème avec ce verset. Vous savez, Rashi, il ne dit pas toujours le problème qu'il a avec le verset. Des fois, Rashi, il explique, et c'est dans son explication qu'on découvre ce qui le dérangeait. Mais des fois, il ne le dit pas clairement. Et là, on voit clairement que Rashi était dérangé par quelque chose. Parce que d'abord, pourquoi il a besoin d'intervenir, c'est clair. Non assistant à personne en danger. Vous avez vu, dès que je vous ai traduit le verset, tout le monde m'a dit, bah oui, c'est ça, non assistant à personne en danger, c'est évident. Et Rashi, il amène en plus un exemple qui est bizarre. Un exemple qui est... Je veux dire, un exemple qui est bizarre. C'est pas... Normalement, Rashi aurait dû nous dire, c'est soit une personne qui est en train de se noyer, soit une personne qui est attaquée par des brigands, soit l'un, soit l'autre. Là, Rashi nous dit non. C'est une personne qui est en train de se noyer, et en même temps, il y a un brigand qui est en train d'attaquer. Pourquoi avoir cherché un cas bizarre comme ça? Bon. Alors, le rabbi explique de la manière suivante. Il dit qu'en vérité, Rashi avait le problème suivant. Rashi avait le problème, qu'on va retourner, donc on va aller un peu plus haut. Je mets un guimel. Là, ici, Pasouk He, et Pasouk Dalet. Alors, on va prendre, donc on prend la page 185. La page 185, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord? On nous dit, donc c'est un exemple, hein, pour citer que cet exemple. Qui tire et Pasouk He? Prenez Pasouk He au milieu de la page. Qui tire et Chamor Sonaha? Revêt Tachat Masao. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, hein, normalement on ne devrait pas en avoir, mais disons qu'on en a. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, Revêt Tachat Masao, en train de crouler sous sa charge, Vechadalta me Azovlo, est-ce que tu vas te retenir de l'aider, Chazé Shalom, comme explique Rashi, Azov ta Azov Imo, tu devras l'aider. Donc de quelqu'un on parle ici? D'accord.
Ah oui, l'âne.
On parle d'un cas, d'accord. Alors, c'est un âne, d'accord. C'est l'âne de mon ennemi, d'accord. Et on te dit attention, si tu ne l'aides pas, et non seulement que tu es obligé de l'aider, mais tu n'as pas le droit de demander une rémunération pour ça. C'est comme ça que Rashi explique là-bas. Tu as l'obligation de l'aider. Alors, le rabbi explique que c'est ça la question qui dérangeait Rashi. Rashi dit attends, je ne comprends pas. Si déjà l'âne de mon ennemi, d'accord, est en danger. Apparemment, il est en train de crouler sous sa charge, ça veut dire qu'il a mal, c'est évident, il est en train de souffrir. Tu me dis que tu n'as pas le droit de non-assistance à âne en danger, d'accord? Tu as l'obligation de l'aider sans demander aucune rémunération, à plus forte raison que quand c'est un homme qui est en train de se noyer, c'est sûr qu'il faut l'aider. Donc là, la question qui dérange Rashi, c'est pourquoi on a eu besoin de dire dans notre parasha Kedoshim, d'accord? Un autre verset pour nous dire il faut aider, d'accord? Une personne, il faut aider une personne qui est en danger. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas de répétition. C'est sûr?
Le premier passage qu'on a dit, c'est
sur lequel? Dans la parasha Kedoshim? Non.
C'est pas sur le sentiment. Tu ne resteras pas impassif dans le
cœur. Non, on parle d'action. Rashi l'a dit, expliqué clairement. Donc c'est ça ce qui dérange Rashi. D'accord? Ce qui dérange Rashi, c'est que si tu as pris la parasha Kedoshim, si on est à la parasha Kedoshim, forcément on est déjà passé par la parasha Mishpatim. Mais d'accord, monsieur. Si on a pris la paracha Kedoshim, forcément on a pris la paracha Mishpatim. Et donc, là, a priori, il y a une répétition. Parce que ce qu'on aurait pu apprendre de soi-même, si déjà tu m'as expliqué qu'il faut aider un animal, d'accord, a fortiori, c'est sûr, c'est évident qu'il faut créer un homme. Et là, de là, Rashi va comprendre qu'en vérité, la Torah ici parle d'un cas particulier. On va rejoindre la question de Dov. Bon, là, je vous ai amené que cet exemple. Hein. Il y a encore d'autres exemples dans la Torah, dans lesquels on nous parle de l'obligation d'aider un animal en danger. On parle aussi par exemple Akem Takim Imo. C'est une autre mise dans la Torah, dans un autre endroit, dans lequel on nous dit que, un autre cas de figure, dans lequel on te dit qu'il faut aider l'animal. Donc la question que Rashi a en vérité ici, c'est pourquoi cette redondance, pourquoi cette répétition? Et puisqu'on parle de la base, qu'il n'y a jamais quoi que ce soit en trop dans la Torah, ça n'existe pas. Donc Rashi a compris que ici ce verset, donc on reprend la Parasha Kedoshim, page 297, Rashi a compris que ce verset parle d'un cas particulier. C'est là que je rejoins la question de Dov. Répète la question de Dov tout à l'heure, c'est quoi ta question?
Je dis jusqu'à quand on doit porter secours à une personne, parce que la Torah aussi, elle nous dit qu'on ne doit pas mettre ses vies en danger. On sait pertinemment qu'une personne est en train de se noyer dans une eau très démontée, avec un tourbillon et tout, est-ce qu'on doit y aller en se disant qu'il y a une probabilité importante que j'y laisse ma vie aussi?
Ah, maintenant, j'ai vu le début de la mitzvah d'aujourd'hui, on doit tuer les Hittites, les Amorites, tous les...
Oui, ils sont la source de l'idolâtrie. Ouais. Mais on ne sait pas qui ils sont aujourd'hui.
On parle d'une
personne qui habite avec nous et qui est juif, soit qui n'est pas idolâtre. Sinon, on n'a pas l'obligation.
Son voisin.
Voilà, Réécha, c'est le voisin. C'est le voisin, c'est... D'accord ? Bon.
Celui qui vit avec nous.
Je pense... Il y a très peu d'idolâtrie dans le monde. Hein. Je l'ai dit hier. Honnêtement, aujourd'hui, il y a très peu d'idolâtres. Aujourd'hui, c'est... Il y a... Enfin...
Ici, en Chine et tout ça, il y a un milliard de Chinois quand même.
C'est très difficile de trouver des vrais idolâtres aujourd'hui. C'est très difficile. C'est devenu une culture aujourd'hui. C'est plus une idolâtrie. C'est très difficile. C'est très difficile. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Alors, je suis en train de dire, Rachid a compris, oui, d'accord, mais ça c'est pas de la vraie idolâtrie.
C'est pas de la vraie idolâtrie, ce qui est l'argent. Ils n'aiment pas derrière l'argent, il y a...
On revient à notre sujet. Rachid a compris que si la Torah nous a répété, c'est que la Torah veut parler d'un cas spécial. Et là, je vais pousser un peu plus la question de Dov. Qu'est-ce qu'a posé comme question Dov? Il a dit, oui, tu me dis qu'il faut se mettre en danger, mais jusqu'à où il faut se mettre en danger? Et Rachid fait le calcul suivant, il dit, attends, dans la paracha Mishpatim, de quoi on parle? On parlait d'un âne. Tu me demandes d'aider un âne à se relever. Est-ce qu'il y a un danger quand j'aide l'âne à se relever? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il risque d'avoir un danger pour moi? Imaginez que je vois un âne par terre avec quelqu'un qui n'arrive pas à le lever. Est-ce qu'il y a un danger pour moi? A priori, non. Peut-être que je ne veux pas arriver, peut-être qu'on devrait être plusieurs, mais a priori, il n'y a pas de danger. En tout cas, je risque pas de mourir à cause de ça. C'est pas je vais aider l'âne à se lever et l'âne va m'envoyer un coup, va dire ah tu m'as aidé, viens je t'envoie un coup.
C'est bête un
âne. A priori, hein, c'est bête un âne. Ouais. Donc, qu'est-ce que Rachid a compris? Rachid a compris que ici la nouveauté qu'il y a dans la paracha Kedoshim par rapport à la paracha Mishpatim, c'est qu'ici on a un problème, c'est qu'ici on va parler d'un cas dans lequel il y a une personne qui est en danger, mais moi pour m'arrêter et pour l'aider, donc pour l'aider, je risque d'être moi-même en danger. Pour Rachid, c'est évident que si je risque moi aussi de me noyer, c'est évident que dans ce cas-là, je ne plonge pas. Si je ne sais pas nager, par exemple, je vois quelqu'un en train de se noyer, c'est évident que la Torah n'a même pas besoin d'intervenir, c'est évident que dans ce cas-là, je ne plonge pas, parce que au lieu de perdre une âme d'Israël, on va perdre deux âmes. On est d'accord? Ça, c'est évident. Rachid a compris, et ça, il faut être Rachid pour comprendre ça, que notre pasouk ici, de quel cas il parle, il ne parle pas d'un simple cas d'assistance à personne en danger, parce que dans ce cas-là, on l'aura appris de Mishpatim. Notre pasouk parle d'un cas dans lequel il y a un léger danger. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple, je suis en train de rouler sur l'autoroute, et je vois quelqu'un qui est, j'ai besoin d'assister quelqu'un en danger. Maintenant, je me dis que si je vais freiner, je vais m'arrêter, je vais mettre de côté, etc., il y a un risque. On a déjà vu qu'il y a des gens qui ont été Dieu préserve fauchés comme ça. D'accord? Donc je me demande, est-ce que je m'arrête ou je m'arrête pas? Et là, je reviens à ta question.
11
minutes? Bon. Je suis déjà resté plus longtemps, mais bon.
Moi aussi, je suis déjà resté plus longtemps.
Tu veux dire, c'est pour ça qu'il dit de sortir de la voiture?
Et ouais. Aller derrière la barrière. Aller de l'autre côté de la barrière.
Quand ils font une intervention, ils bloquent au moins 2-3 voies, parce que les pauvres, souvent, il y a des morts. Qui nettoient et tout ça. Même pour après un accident.
11 minutes.
On ne stresse pas plus.
Alors, Rachid va nous expliquer que notre pasouk parle ici de ce cas-là. Il ne parle pas, donc, ni on parle d'un cas où je peux assister la personne sans aucun danger. Là, c'est sûr que je suis obligé de le faire, on l'a appris de Mishpatim. Ni on parle d'un cas dans lequel je ne sais pas nager et que c'est évident que je vais me noyer moi aussi. Là, c'est évident que je ne dois pas sauter. Donc, ces deux cas-là, on les a écartés. Les deux extrêmes, on les a écartés. De quel cas on parle ici? On parle d'un cas au milieu. On parle dans un cas dans lequel... Je vais devoir me mettre un petit peu en danger, mais je pense que je peux le faire.
Mais c'est pas le cas dont parle Rachid.
Attends.
Rachid parle du cas d'une personne qui est en train de se noyer, en train d'être attaqué.
Alors, maintenant on va relire Rachid. Vous allez voir, on va relire Rachid, vous allez voir, on va tout comprendre. On va relire Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Lota Amod Al-Dam Re'echa. On était donc à la ligne qui commence, je crois que c'était la septième ligne.
Septième ligne, oui.
La colonne de gauche. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Regardez bien comment chaque mot de Rachid est précis. Il apprend en page 297. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Lire hot bemitato, le voir en train de mourir. Veata yachol le atzilo. Ça veut dire d'un côté tu le vois en train de mourir. Ça veut dire quoi tu le vois en train de mourir? C'est-à-dire qu'il y a un danger. On est d'accord? Tu le vois en train de mourir, c'est-à-dire qu'il y a un danger. Veata yachol le atzilo. Et tu penses, tu es sûr que tu peux le sauver.
Il n'y a pas marqué tu es sûr.
D'accord? Justement, tu peux le sauver. Ça veut dire quoi? D'accord? Tu peux. Ça veut dire que de quel cas on parle ici? C'est le cas que je viens de vous dire. C'est une possibilité. C'est pas sûr que tu peux le sauver, c'est une possibilité. Ça veut dire qu'on parle exactement du cas que je viens de vous dire. Enfin, c'est le rabbi qui explique ça dans Rashi. Hein, il faut être Rashi pour voir ça dans le Passouk, et il faut être le rabbi pour voir ça dans Rashi. Alors, on parle d'un cas qui est entre les deux. Que tu peux l'aider, d'accord, il y a un peu de risque, mais tu penses que tu peux y arriver. Oui. Et là, Rashi donne un exemple. Quel exemple Rashi va amener? Rappelez-vous, c'était quoi l'exemple bizarre que Rashi a amené? Kegon, par exemple. Tovea Banar. Si une personne est en train... Donc, si une personne est en train de se noyer dans le fleuve, et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et en même temps, Vechaya Olistim, et une bête sauvage, ou bien un brigand, Baim Alav, ils sont là en train de, ils vont venir, Baim Alav, ils sont en train de l'attaquer. Ça veut dire comme ça, c'est extraordinaire comment Rashi a compris. Il dit comme ça. Et tu dis, s'il y avait un seul danger, par exemple, je le vois en train de se noyer, je sais nager. Est-ce qu'il y a un danger pour moi? Il n'y a pas de danger pour moi. Donc c'est évident que je plonge. D'accord? S'il y a une bête sauvage qui est là, en train de l'attaquer, et moi j'ai un pistolet, je peux la tuer ou je peux l'arrêter, c'est évident que je l'arrête. Il n'y a pas besoin du verset pour ça. Rashi dit de quel cas on parle ici? On parle dans un cas dans lequel il y a deux dangers qui vont s'associer.
Donc,
par exemple...
La probabilité pour qu'il s'en sorte est faible.
Exactement. Donc, il est en train de se noyer, d'accord? Il est en train de se noyer, et il y a des brigands qui sont là. Donc là, même si je vais l'aider, même si moi je sais nager et je sais me battre, mais je vais devoir me battre contre deux phénomènes. Donc il y a plus de risques. D'accord. Et là, c'est la question. Et là, c'est la question. Est-ce que je plonge ou je plonge pas? Et Rashi nous explique que c'est pour ça que le verset est venu te dire. Que l'ota amod adam reacha, que même dans un cas comme ça, tu n'as pas le droit de rester impassif, tu dois aller l'aider.
C'est beaucoup... dans le cas d'accord de Rashi.
Alors, je ne sais pas si dans la loi, française, dans l'assistance à personne en danger, est-ce qu'on l'applique dans ce cas-là?
Hein, on n'est pas juge.
Non, parce qu'il y a avocat, je... hein.
Circonstance atténuante.
Attends, il est en train de se noyer, t'as un brigand qui est là, tu dis, attends, je vais devoir me battre, et contre le fait qu'il est en train de se noyer, donc je vais devoir essayer de le récupérer, et contre le voleur.
Mais dans la Torah, tu dois le sauver quand
d'accord
même. D'accord. Bien
le...
sûr.
Qu'est-ce qu'il dit Rashi? D'accord.
Bien sûr.
Tu dois quand même l'aider.
Pourquoi il combine deux dangers pour dire que...
Parce que s'il y avait un... Parce que la logique de Rashi est la suivante. Non, la logique de Rashi est la suivante. S'il est en train de...
Il est en train de parler de deux dangers. Moi, pour
un danger,
n'aurait
pas suffi.
Alors justement, très bien. Parce que la question de Rashi est la suivante. D'accord. S'il y a un seul danger, si tu le vois en train de... Si tu le vois en train de se noyer et que tu sais nager...
Donc tu vas le sauver.
D'accord. Normalement tu vas le sauver. Donc, c'est pratiquement sûr.
Non, je le vois en train de me noyer et je ne suis pas sûr de
pouvoir
le sauver.
Voilà, justement, Rashi l'a poussé encore plus loin que ça.
Mais s'il a mis deux, moi pour moi je vois la chose de la façon suivante. S'il a mis deux éléments, c'est que vraiment la probabilité de sauver, elle est pratiquement nulle.
Mais il aurait pu trouver un cas.
Non. Dans ce cas-là, non. Si la probabilité de sauver est nulle, tu sautes pas parce que pourquoi tu vas sauter? Tu vas sauter pour sauver quelqu'un. Mais si tu risques de tuer deux personnes, on a
donc,
personne
dans
ce cas-là.
La probabilité est pratiquement nulle, on doit y aller.
Non. Mais... Dans un cas où, je reprends, dans un cas où on a, on va dire, la majorité de chances qu'on va réussir, il n'y en a même pas besoin de la Torah pour me le dire. Pas besoin de la Torah, c'est évident. C'est comme le cas de l'âne. Dans le cas de l'âne aussi, tu peux, en l'aidant, il peut donner un coup. Il n'y a pas de probabilité. Normalement, tu vas l'aider, il va se lever et c'est tout. Ça, j'ai pas besoin de me le répéter à la parasha Kedoshim. Dans le cas où c'est, il y a pratiquement... C'est pratiquement sûr que... Alors voilà, s'il y a juste ça, c'est évident que j'ai même pas besoin de la paracha Kedoshim. Si c'est pratiquement sûr que moi aussi je vais me noyer, quand il y a un tourbillon, etc., c'est évident que je ne plonge pas, parce qu'on risque de perdre deux personnes. Là, de quel cas Rashi parle? Il parle dans un cas dans lequel il y a deux dangers, et que chacun des deux dangers, je pense que je peux y faire face. Mais les deux dangers en même temps, c'est plus dur. Je répète. Par exemple, il y a un brigand. Quand un brigand, ça peut être un voyou. Je peux me battre avec le voyou. Quand il est en train de se noyer, je sais nager. Mais les deux en même temps, j'ai moins de chances que je vais réussir.
Mais c'est pas ça la question.
Et là, c'est la question de Rashi. D'accord.
Il aurait pu trouver dans la noyade. Il aurait pu trouver dans la noyade le même point de certitude que l'on a aujourd'hui.
C'est vis-à-vis de
dans la noyade. Je pense que je ou les deux ou l'un ou l'autre. je pense que dans la noyade, je peux l'aider. Donc je vais l'aider.
Justement, c'est là ce que dit Rachid. Ce que Rachid te dit, c'est que c'est plus fort que la noyade. Parce que là, tu as deux dangers qui sont associés.
Mais le résultat est le même, c'est Bemitato. La noyade amène à la mort.
Mais la question, c'est justement, on rejoint la question de Dove. C'est que jusqu'à où je dois me mettre en danger pour aider quelqu'un.
C'est que je dis, d'accord, dans la noyade, alors, on peut trouver cette rupture dont tu parles.
Comment tu as trouvé cette rupture?
Est-ce que je suis capable, par exemple, si la mer est un peu démontée,
oui, 130 kilos,
est-ce que je suis capable de... Pourquoi Rachid a dû combiner deux?
Parce que Rachid veut nous dire que même si j'ai deux dangers qui sont combinés, donc là, tu as raison, donc là on peut combiner, dans ce cas-là, tu as combiné deux dangers également. Par exemple, imaginons qu'il y a un tourbillon, plus une personne qui est en train de se noyer. D'accord? Très bien. Mais là, j'ai les mêmes deux risques. J'ai les mêmes deux risques. C'est que tout d'abord, il faut réussir à le récupérer. Donc ça, c'est un premier danger. Il faut réussir à le lever. Et deuxièmement, moi, je risque d'être emporté par le tourbillon. Je suis d'accord avec toi. Mais là, ce que Rachid veut dire ici, c'est Rachid, ce qu'il voulait nous montrer ici, c'est le fait qu'on associe, deux dangers. C'est ça ce que Rachid voulait nous montrer. Donc pour nous montrer qu'on associe deux dangers, il nous a donné un exemple de deux dangers bien distincts pour te dire que même s'il y a deux dangers distincts et que là tu dis, attends, un danger, je suis prêt à me battre contre, mais deux dangers, non. Je pense dans le cas du brigand, on voit clairement comment je dois me battre contre deux choses.
Oui, il y a bien l'intention.
Il y a bien deux choses. Ça veut dire, il faut que je me batte contre le brigand et contre l'eau. C'est ça que Rachid voulait montrer.
C'est pas Rachid, c'est pas l'un ou l'autre.
Non. V. Il n'a pas dit O. Attention. D'accord. Après, il a dit O. Raya Olistim. V Raya Olistim. Tu vois, il a dit V. V en hébreu, ça veut dire E. Ah, ça, on peut passer à côté, hein. Mais c'est un Rachid d'une ligne. Alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est extraordinaire ce qu'on apprend de Rachid ici. Que lorsqu'on doit aider quelqu'un, d'accord, même si on a du risque, on a beaucoup de risques, je ne peux pas calculer en pourcentage, mais c'est évident qu'il faut le faire, oui, avant de passer à l'enseignement, oui.
Moi, je dis, dans une situation pareille, il y a un type qui est en train de se noyer.
Oui.
Il y a à côté un voleur ou une bête féroce qui vient attaquer.
Uh-huh.
Et on est là. La question est, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est là? Pourquoi on est là? Qui nous a amenés ici? Pourquoi on est là?
Ah.
Pourquoi on est dans cette histoire?
Très bonne question. Non, attention, écoutez bien le fond de la question.
Mais si on est là,
oui, j'ai compris. Si on est là, c'est que Dieu nous a mis dans cette situation.
Mais c'est une évidence.
C'est une évidence.
C'est une évidence.
Bon, ça peut être une épreuve aussi.
Mais c'est l'épreuve des épreuves.
Peut-être pour récupérer sa veste.
Alors, exactement. D'accord.
Tout n'est qu'épreuve.
Très bien. Vous avez déjà commencé à expliquer l'enseignement. Bon, il y a encore des détails. C'est exactement l'enseignement que le rabbi tire de ce Rashi-là. Ce Rashi, il dit comme ça, d'accord, Razak. Le rabbi reprend Rashi encore une fois. Il dit, « L'irod de mitato ve'ata yachol le'atilo. » Il dit, tu le vois en train de mourir et tu peux le sauver. Qui te dit que tu peux le sauver? Tu sais, tu peux le sauver. Il n'a pas dit, et tu penses que tu peux le sauver. D'accord. Qu'est-ce que Rashi a dit? « L'irod de mitato ve'ata yachol le'atilo. » Tu le vois en train de mourir et tu peux le sauver. D'où tu sais que tu peux? Tu aurais dû dire, je pense que je peux le sauver. De là, Rachid explique ce que vous avez dit. Que si tu vois quelqu'un en train de mourir, ça veut dire que tu peux le sauver. Sinon, Dieu ne t'aurait pas mis ici. C'est ça. Rachid, il n'a pas dit, et tu penses que tu peux le sauver. Rachid, il a dit, et tu peux le sauver.
Et pourquoi il
n'a
pas dit, et tu peux le sauver?
D'accord. Non, c'est pas ici.
Non.
Et tu peux le sauver. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Mais tu as raison, très bien. C'est peut-être
son épreuve. Alors, maintenant écoutez bien. Quelle heure il est? Je finis avec ça. Je conclue avec ça.
Tu fais rien, tu bouges pas. L'enfant se noie, et puis tu es là, tu pleures. Combien de temps tu peux vivre avec ce cauchemar toute ta vie d'un enfant que tu n'as pas aidé, et tu n'as rien fait, même pas tendre la main, même pas essayer de le sauver? Bien sûr. Non, mais je rigole pas.
Bon, alors, je conclue l'enseignement. L'enseignement qu'il faut tirer. D'accord. Allez, messieurs, comme ça, il y en a qui doivent partir. L'enseignement qu'on doit tirer, c'est quoi? L'enseignement qu'on doit tirer, explique le rabbi, c'est que de la même manière, on peut avoir quelqu'un qui se noie matériellement, on peut avoir un ami qui se noie spirituellement. Écoutez bien l'enseignement, un enseignement très important.
Ah oui,
d'accord. C'est ça où je veux en arriver. Rappelez-vous, on avait trois hypothèses. Première hypothèse, on a dit, c'est que c'est très facile à le sauver. Il n'y a pas de danger. Donc spirituellement, c'est quoi? Je vois un ami à moi en train de se noyer, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de risque, je peux l'aider tranquillement, il n'y a pas de risque que je me fasse influencer. Là, c'est évident, il n'y a même pas besoin de verser la Torah, c'est sûr que tu dois l'aider. Bon. Troisième cas, je saute le deuxième. L'autre extrême. C'est quoi le troisième cas? c'est que c'est pratiquement sûr que si je vais l'aider, je vais me faire influencer. Par exemple, quelqu'un qui est en train de démarrer cette échouva. Il est en train de démarrer cette échouva, il est encore très fragile. Et s'il va se mettre à commencer à faire du prosélytisme, il va commencer à essayer d'encourager les gens à faire Torah Mitzvot, il risque de plonger. Là, dans ce cas-là, tu écoutes. Tu restes tranquille, tu attends un petit peu que tu te fortifies, qu'il y a moins de risques, qu'il y a moins de probabilités que tu tombes, et après tu vas aider. Donc on a fait les deux extrêmes. Mais là, explique le rabbi, vient le cas du milieu. C'est quoi le cas du milieu? Le cas du milieu, c'est lorsque moi, Baruch HaShem, j'ai déjà avancé dans ma teshuva, je suis assez stable, et j'ai quelqu'un que je dois aider. Maintenant, il y a toujours des risques. Quand tu vas aider quelqu'un à faire teshuva, quelqu'un qui est tombé, il y a toujours des risques que toi aussi tu vas retomber avec lui.
Il va t'emmener avec lui,
tu vas se mettre à lui parler, il va se mettre à... Vous savez, quand il y a une discussion, on perd toujours des plumes. D'accord? Et là, je me pose la question. Je me dis, finalement, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi que je vais aider mon ami? Je vais me dire, attends, je risque de perdre des plumes. Est-ce que Dieu veut que je perde des plumes? Qu'est-ce qu'il te répond, Rashi? Il te dit, Ve'ata yachol le'atsilo. Si Akadosh Baruch Hu a fait que cette personne-là est ton ami et qu'il est autour de toi, et que tu l'as vu, ça veut dire que tu peux l'aider. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as deux dangers, mais tu penses que tu peux le faire. Tu penses que bon, c'est faisable. C'est pas facile, mais c'est faisable. Quel est l'enseignement de Rashi? Non seulement tu peux l'aider, mais tu dois l'aider. Et si tu ne l'auras pas aidé, on te le reprochera, Ani Hachem, l'otamol d'Amrecha, on te reprochera de non-assistance à personne en danger. Et c'est ça ce qu'il faut retenir du
Coran. C'est un enseignement que Rabbi a donné pour l'ensemble de l'Ouest.
Bien sûr.
Et on voit aujourd'hui que tout le mouvement a pris cet enseignement.
Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques.
A pris cet enseignement.
Mais il faut se battre avec un brigand et avec l'eau. Ça veut dire que le Lubavitch doit se battre et contre le Yitzhara de l'autre et contre son Yitzhara. Alors qu'est-ce qu'on fait?
C'est vrai qu'on n'aurait pas vu sur le rapide, on n'aurait pas vu cet enseignement-là.
Oui, comment